Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir notre deuxième rencontre autour des nouvelles du vivant. Quelles nouvelles du vivant aujourd'hui? Le vivant est partout, sous le signe de la catastrophe, sous le signe de l'homme qui découvre qu'il est un être vivant, un animal sur cette planète, avec quelques particularités. Mais dans cette série, nous entendons des vivants qui nous parlent de leurs expériences et qui sont entre littérature et philosophie des interlocuteurs cette semaine. Quelle nouvelle du vivant, ce soir notre deuxième rencontre avec Alexandre Jolien, philosophe. Bonsoir Alexandre Jolien.
Bonjour Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être venu ce soir pour parler du vivant, de la vie. Est-ce que le thème tel que je l'ai présenté, c'est les nouvelles du vivant qui viennent des vivants eux-mêmes, qui affrontent la vie et sa difficulté, mais aussi ses ressources. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça correspond à votre travail de philosophe et d'écrivain, Alexandre Jolien?
Ah oui, on est en plein dedans la vie. D'ailleurs, l'expression qu'on utilise souvent dans la vie, ça m'a toujours fait tilt, parce est-ce qu'on peut être ailleurs que dans la vie? Bien sûr, il y a des qualités du présent, on peut vivre sa vie sous le mode de pilotage automatique, mais être vivant, exister, c'est un travail.
Mais c'est vrai que dans la vie, c'est à la fois une expression un peu absurde, mais c'est souvent, je vous écoute et je me dis, on emploie cette expression souvent pour, comme un supplément de preuve, c'est-à-dire dans la vie, ça, pour de vrai, ça veut dire dans la vie, c'est comme une preuve, dans la vie, pour de vrai, ça se passe pas comme dans les livres, c'est souvent par opposition au savoir livresque. Et vous, dans tout votre travail, justement, vous écrivez des livres. À mon avis, derrière vos récits d'expérience, vos combats avec la vie, il y a une vraie philosophie, mais c'est dans, vous voulez la mettre à l'épreuve de la vie.
Oui, je suis un peu ému et touché de vous parler et impressionné parce que précisément je m'estime comme philosophe de terrain et j'ai pas beaucoup de culture. Mon handicap m'empêche de lire énormément, mais la philosophie c'est pour moi, j'allais dire, un gilet de sauvetage pour glisser dans la vie, oui.
Je crois que oui, mais ce que vous venez de dire montre déjà que vous, quand je dis philosophe, philosophie, justement, je pense pas forcément à la maîtrise de tous les systèmes, mais à une vraie question de fond qui vous fait vous confronter avec d'autres auteurs qui ont des questions, quelques-uns. On va parler beaucoup de Nietzsche, par exemple, aujourd'hui, mais je pense que vous avez une question philosophique aussi. Vous glissez sur la vie, c'est une réponse à une question.
Oui, alors j'entendais sur vos ordres une rediffusion de Lucien Gerfagnon qui disait que sa première question philosophique, ça avait été « qu'est-ce que je fous là ?»
Qu'est-ce que je fous là ?
Oui, le mystère de l'être, de l'existence. Pour moi, la première question philosophique, c'est comment être en joie dans un univers tragique. C'était pas formulé comme ça, mais il y avait ce questionnement, où trouver la joie dans un univers fragile, précaire, chaotique, dans cette vie, quoi.
Vous voyez bien que vous avez une question philosophique. Je pense que c'est moi qui suis intimidé, Alexandre Jolien, devant votre question telle que vous la formulez, comme notre condition en général, et pas par rapport à tel obstacle.
Justement, c'est la vie qui a posé question. C'est la vie dans la situation d'un handicap, dans une précarité, qui a fait question et qui n'allait pas de soi et qui a généré peut-être une vocation philosophique maîtrisable, j'allais dire.
Une vocation philosophique, Alexandre Jolien, en effet, vous, dans tous vos livres, depuis le tout premier qui s'intitulait « Éloge de la faiblesse », si je ne me trompe pas, vous affrontez votre handicap, qui est venu, j'allais presque dire, avec la vie, à la naissance, si je ne me trompe, un handicap qui à la fois été un défi à votre vie pratique, mais a suscité aussi votre réflexion. Une fois, vous avez peut-être comme tout vivant humain, mais un peu plus, été presque amené à chercher à vivre bien malgré les difficultés de la vie.
Alors, le handicap pose une grande question, celle de la difficulté de la vie sociale. Mmh. Parce que paradoxalement, le handicap dans sa biologie, dans son aspect matériel, est peut-être moins douloureux que le handicap dans le regard de l'autre et dans la vie sociale. Et aussi, ayant vécu dans une institution pour personnes handicapées, hors des conventions et du vernis social, il y a eu le besoin d'apprendre carrément cette vie en société comme si elle exigeait des... C'est comment dire, mais du calcul, une politesse, alors que la brutalité de la vie de mes compagnons d'épreuve à l'institut exigeait une radicalité et une vérité. Ouais.
Une radicalité et une vérité. D'abord, dans le rapport aux autres, vous dites, avant même le rapport au corps,
Ce qui m'a frappé, c'est la nécessité d'une solidarité. Mmh. Il n'y a pas de temps à perdre dans les passions tristes. Il faut s'épauler et cette solidarité quasi naturelle m'a toujours donné beaucoup de questions. Parce que pourquoi elle est plus évidente quand, entre guillemets, ça va mieux?
Est-ce que je peux risquer une hypothèse ou une question à Alexandre Jolien?
Oui, mais...
Je me disais, en vous écoutant, est-ce que le handicap, je n'ose pas dire, c'est pas du tout une question de chance, mais d'obligation plutôt, est-ce qu'il n'oblige pas tout de suite à polariser la vie? C'est-à-dire, étant malgré tout dans une forme d'obstacle et de négativité, ou en tout cas sociale, il oblige à chercher le bien, à chercher du plaisir. Et comme vous dites, on n'a pas le temps d'être triste parce que ça l'est déjà objectivement, notamment socialement. Et donc, la polarité de la vie qui est entre le négatif et le positif, entre la souffrance et la joie, elle vous est encore plus donnée qu'aux autres vivants.
J'espère parler des situations limites. Et je crois que la réalité du handicap, mais c'est vrai, de beaucoup de souffrances, nous accule
à la joie.
À la joie, c'est brutal de dire comme ça, mais je pense oui.
Acculé à la joie,
c'est une expérience décisive qui pousse à un choix de vie.
Elle devient vitale. Si on n'a pas des moments de joie, finalement, la vie devient quasiment impossible.
Oui, la joie comme ressource, comme élan vital, comme élan vers l'autre, et comme abandon d'une individualité, repli. J'aime bien replier sur elle-même. J'aime bien l'expression éclater de joie, parce que dans le fait d'éclater de joie, il y a l'ego qui se dilate et qui épouse le monde, oui.
Mais en même temps, Alexandre Jolien, l'expérience du handicap montre que éclater de joie, ça a des conditions, finalement. Ça se construit. Peut-être que c'est des conditions pour ensuite oublier ces conditions, pour éclater dans l'oubli des conditions qui l'ont permis. Mais néanmoins, il faut construire des moments. Il y a une société qui est négative, mais qui vous aide aussi peut-être parfois à construire ces moments. Il y a des livres, il y a de la musique, il y a des expériences, il y a le monde, il y a les malheurs des autres qu'on peut aider. Donc au fond, il y a quand même des conditions pour cette libération par la joie, même si elle est seulement par moment.
Et il y a aussi et surtout la solidarité. Je ne crois pas au self-made man qui s'en sortirait seul dans son coin. On est, comme le rappelait Aristote, des animaux sociaux. Et c'est au sein d'une solidarité qu'on construit sa joie. C'est ça qui est magnifique. La joie nous appartient pas. Elle est donnée, elle est reçue, elle est partagée. Mais on n'a pas une mainmise sur cette joie.
Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la philosophie à ce moment-là, Alexandre Jolien? Est-ce que c'est parce qu'il y a quand même des images, des pensées qui peuvent nous éloigner de cet objectif? On aurait envie de dire, j'ai envie de dire que je suis vitaliste comme vous l'êtes peut-être, mais si on pense que la vie nous amène vers la joie, contre la souffrance, comment se fait-il qu'on ait besoin de la philosophie? C'est-à-dire, il y a quand même des pensées aussi, le rôle de la pensée, des représentations, des idées qui peuvent nous éloigner, nous perdre, et il faut quand même lutter aussi par la pensée. Pourquoi est-ce qu'à un moment, vous avez eu besoin de la philosophie?
Moi, je crois que, comme Erasme, l'homme ne n'est pas libre, il le devient, et je crois que ce processus de libération peut emprunter différentes voies, et celle de la philosophie, c'est-à-dire déjà, comme disait Épictète, se voir comme un esclave en voie de libération, ça permet de refuser une fatalité, des déterminismes, et déjà peut-être presque aussi s'arracher à soi-même, ou du moins à une image de soi.
Mais alors, ce sera une philosophie particulière, une philosophie contre une autre. Est-ce qu'il y a pour vous des philosophies que vous refusez avant d'aller vers celle que vous défendez, celle que vous admirez, celle qui vous aide à vivre, parce que c'est finalement le critère ultime. Est-ce qu'il y en a qui vous paraissent aller dans le mauvais sens, qui sont des erreurs?
Mais j'aurais pas la prétention de juger une philosophie. Il y a des penseurs qui m'aident et qui sont presque à m'enchever, justement, dans cet itinéraire de libération et de joie. Et paradoxalement, sans tomber dans l'éclectisme, il y a des penseurs qui me font violence presque et qui m'arrachent à moi-même. Je pense à très précisément, je suis croyant, je crois en Dieu. Mais paradoxalement, les penseurs les plus radicaux contre la foi me libèrent.
Oui, parce que dans vos livres, et en particulier dans La Sagesse espiègle, dont on va parler, le dernier livre que vous avez publié chez Gallimard, qui est très singulier, très important à mon avis pour beaucoup de raisons, ce livre, là, c'est plutôt, vous êtes guidé par Nietzsche, un peu par Spinoza, par des sagesses aussi bouddhistes, par des philosophes de l'Antiquité. On n'entend pas parler tellement de religion dans ce livre.
Oui, parce que le livre part d'une urgence, c'est-à-dire précisément celle de sortir d'une addiction, d'une passion triste. Et j'ai sollicité les philosophes un peu comme des médecins, comme des thérapeutes. Alors c'est un parti pris, celui de l'exigence de s'en sortir. Et c'est vrai que la religion est pour moi gratuite. Elle ne saurait être utilitaire, sauf à faire, comme dirait Maître Eckhart, de Dieu une vache à lait.
Ah, donc pour vous, la religion est dans un autre ordre encore. C'est pas elle qui vient nous sauver dans nos épreuves vitales, elle est encore au-dessus.
Elle vient nous sauver dans nos épreuves vitale, mais si elle est instrumentalisée comme une baguette magique ou une bouée, l'instrumentalisation, elle tue la gratuité qui est pour moi la caution du religieux.
C'est curieux ce que vous dites, Alexandre Jolien, parce que dans sa théorie de la philosophie comme manière de vivre, qui nous aide à vivre, Pierre Hadot, que vous connaissez, qui a forgé cette idée de la philosophie pour aider à vivre, qui la retrouve dans la Grèce, il dit, au moment du christianisme, c'est la religion qui a repris sur elle cette fonction de nous aider à vivre, et la philosophie est devenue un savoir abstrait. Et là, vous dites un peu, finalement, la philosophie doit nous aider à vivre, et puis la religion ne doit pas être instrumentalisée. Mais au fond, à quoi sert-elle alors si on ne peut pas l'appeler au secours? Les instruments, ça peut être utile, les médecins ont des instruments.
Oui, mais en faire qu'un instrument, pour moi, c'est lors de l'idolâtrie. Et Pierre Hadot m'a vraiment beaucoup aidé dans justement ce grandiose panorama de la philosophie antique. Et le recours à la religion nécessite aussi une adhésion de foi. Quelqu'un qui est dans la dépression ou dans l'addiction, s'il n'y croit pas, il ne peut pas spontanément aller vers le mieux, tandis que la philosophie grâce à un travail de raison qui a pas de présupposé ou peu s'en fout, peut se libérer, oui.
Par soi-même, accessible oui. à tout le monde. Alors, Alexandre Jolien, dans l'ensemble de vos livres, de votre parcours, depuis l'éloge de la faiblesse, le philosophe nu et quelques autres, le tout dernier livre, La sagesse espiègle, a vraiment une singularité qui est d'abord dans son mode d'écriture. J'ai l'impression que vous proposez une thérapie, finalement, la philosophie comme thérapie, mais en même temps, vous racontez la maladie et la thérapie se fait au fur et à mesure du livre. Et le livre a deux types d'écriture, des fragments peut-être d'un journal, vous allez me dire, où vous racontez ce problème que vous avez rencontré, je pense que le jeu c'est bien vous, une addiction de type sexuel, et puis en parallèle, des réflexions philosophiques qui vous aident à surmonter cette addiction, mais c'est dans le livre lui-même. Le livre est comme une expérience à deux facettes, avec la maladie et la médecine proposé par la philosophie. Qu'est-ce qui vous a amené à cette double écriture, finalement ?
Dans le livre, je raconte comment je me suis épris d'un garçon. C'est une dépendance plutôt affective et plutôt une haine de mon corps qui m'a poussé à idolâtrer le corps d'une personne non handicapée. Et quand on parle d'itinéraire de libération, c'est plutôt se libérer de la passion triste, de l'idolâtrie que du désir qui lui-même est bon et sain. Alors la double
écriture. C'est l'idolâtrie. Donc on retrouve un peu du religieux là, Alexandre.
Oui,
l'idolâtrie. C'est-à-dire que ce rapport au corps que vous regardez sur un écran tous les jours de plus en plus, pour vous, il a quelque chose d'une mauvaise religion, d'une sorte de fascination destructrice.
Alors il y a l'amour d'un garçon ou d'une fille qui peut être libératrice, mais il y a la passion triste, quelle que soit le homme ou femme, qui peut être le lieu de la dépendance la plus totale. Et quand je parle d'idolâtrie, c'est précisément qu'on aime une idée, une projection, c'est hyper narcissique. Et la philosophie m'a aidé, enfin ma vision humble de la philosophie m'a aidé peu ou pro à détricoter cette image.
Parce que
pour aimer le réel.
Parce qu'aussi, Alexandre Jolien, dans cette fascination, vous racontez de façon très forte comment vous regardez à telle heure un jeune homme prendre sa douche.
Oui.
Dans cette fascination, il y a un désir que vous cherchez à préserver, un désir qui est l'essence même de la vie pour vous. Et puis, il y a quelque chose de négatif et qui tient pas seulement à la dépendance, mais au rapport à votre propre corps. C'est lié à l'image de vous-même à travers le handicap, qui produit une fascination que vous trouvez destructrice pour ce corps qui, dépourvu de handicap, qui vous paraît, que vous idolâtrez comme un corps parfait, en un sens.
C'est ça, le désir, à nouveau, on peut désirer un homme, une femme, et c'est triste, ça, c'est libérateur. Mais quand on aime l'autre au prix d'une haine de soi et une force qui s'oppose au réel, c'est là qu'on est, à mon avis, dans la passion triste, et c'est de ça qu'il s'agit de se libérer, ne serait-ce que pour retrouver le désir et l'épanouir et l'ouvrir et l'élargir, oui.
Donc c'est comme si cette découverte d'une dimension de l'amour, d'une dimension du désir, avait ravivé ce risque de haine de soi que vous aviez déjà en partie surmonté dans votre vie, dans vos autres livres en tout cas, et même dans votre vie.
Qui l'a ravivé, qui l'a révélé aussi, je pense que...
Vous l'aviez déjà rencontré malgré tout, ce risque de la haine de soi.
Oui, et là on retourne à la vie sociale, parce que quand tous les jours... On se fait moquer par le regard de l'autre en traversant une cour d'école ou en empruntant le métro. Comment ne pas haïr ce corps qui nous rend différents et identifiables? Et comment ne pas avoir un brin de jalousie pour un corps qui n'accuse pas cette différence? Oui.
Donc les passions tristes viennent autant, sinon toujours, d'autrui plutôt que de soi-même. Vous nous avez apporté un morceau de musique, pourtant, Alexandre Jolien, qui montre que autrui peut aussi nous aider. On va d'abord l'écouter, vous nous direz ensuite pourquoi.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord.
France Culture, Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, quelle nouvelle du vivant, toujours notre deuxième conversation avec Alexandre Jolien et sa sagesse espiègle qui est parue récemment chez Gallimard. Alexandre Jolien, est-ce qu'il y a une sagesse espiègle à nous avoir proposé Georges Brassens pour jalonner cette conversation, les copains d'abord, ou est-ce que c'est à la fois sage, espiègle et très sérieux?
Les trois à la fois,
ouais,
il me semblait bien. Oui.
Et pourquoi alors?
Pas justement, le rapport à l'autre est décisif dans la joie et dans l'itinéraire de libération de soi, et l'amour de l'autre est pas quelque chose à réprimer, mais à élargir, à libérer, j'allais dire purifier, mais c'est peut-être trop religieux comme vocabulaire.
Mais je vois que vous n'avez pas peur du vocabulaire religieux qui est même chez vous, j'ai l'impression, aux deux limites du vivant, c'est-à-dire du côté du négatif, il y a l'idolatrie, encore aux limites de la haine de soi, et puis au côté du positif, il y a justement la foi, la pureté. Est-ce que vous mettez le religieux comme ça aux deux extrêmes du vivant, du côté du négatif et du positif?
Alors que le religieux, à mon avis, a pour vocation de nous ramener en plein cœur du vivant, et c'est là que Nietzsche peut, pour le coup, nous purifier, en ce sens, d'où vient ce besoin d'arrière-monde, d'utopie, d'idéal qui disqualifierait le réel tel qu'il se propose et tel qu'il s'impose. Oui.
Donc ça, Nietzsche, que vous évoquez profondément, la sagesse espiègle, au fond, Alexandre Jolien, c'est, vous traduisez le gai savoir, c'est une des manières de...
Oui.
On pourrait dire, je ne sais pas si vous l'avez mais la sagesse espiègle, c'est une autre façon peut-être de traduire le gai savoir.
Donc je n'aurais pas la prétention de m'imaginer sur Nietzsche,
mais pourquoi pas
le gai savoir, c'est voir le tragique de l'existence sans dégringoler dans l'amertume, le ressentiment, la tristesse. Et pour moi, c'est un défi majeur du vivant, ne pas aller du côté de la haine, de la violence et du désespoir. Oui.
Mais alors, on est bien d'accord sur l'objectif, Alexandre Jolien, et je pense que là, on est au cœur de la question, parce qu'au fond, vous reprenez en effet la pensée de Nietzsche, le thème de la grande santé, dire oui même à la souffrance, en un certain sens. Est-ce que, pour se délivrer de la souffrance, est-ce qu'il faut lui dire oui parce qu'elle fait partie de la vie, et aller aussi par cette affirmation vers la joie, le gai savoir, la sagesse espiègle, ou bien est-ce qu'il ne faut pas dire non à la souffrance pour aller vers la joie. Et, au fond, on a un choix. C'est-à-dire, comment dépasser la souffrance? Est-ce que c'est en l'acceptant ou est-ce que c'est en la refusant? Quelle est ce qui est le plus important dans le vivant, selon vous, Alexandre Julien?
Alors, pour moi, la mort fatigue, l'amour de la vie telle qu'elle est, du tragique, c'est pas du tout la résignation. C'est au contraire, d'une fois qu'on a dit oui, ou qu'on dit oui d'instant en instant au tragique du réel, qu'on peut s'engager et se mobiliser pour...
Contre lui, pour agir.
Pour une société plus juste, parce qu'il y a le tragique, mais dessus ce tragique, il y a l'injustice, il y a les psychodrames, il y a les patients tristes. Et là, notre responsabilité, c'est de se mettre en route pour faire barrage à ces forces négatives qui détruisent l'homme et mettent beaucoup de monde sur la touche.
Mais ça, c'est Alexandre Jolien qui dit ça, ça n'est plus Nietzsche. Parce que, est-ce que Nietzsche, justement, parce que Nietzsche est dans la grande santé, que vous reprenez souvent, très fortement, dans la sagesse espiègle, votre gai savoir à vous, Nietzsche qui est dans la grande santé, est-ce qu'il va vers le soin, justement? Est-ce qu'il va vers la justice? Est-ce qu'il va vers la lutte contre le négatif? Alors, ça, c'est vous qui lui avez ajouté ça.
Il y a plusieurs lectures de Nietzsche, mais moi, je crois qu'on peut trouver des fermes, de nouveau dépoussiérer la solidarité, décaper ce qui dénonce la pitié pour nourrir une générosité qui est sans scorie et sans volonté de puissance sur l'autre.
D'accord, donc vous prenez chez Nietzsche, au fond, une sorte d'inspiration fondamentale, mais peut-être pour l'appliquer autrement, pour l'appliquer aux soins d'autrui, de soi-même.
Pour moi, lire Nietzsche me réconcilie avec le réel et me met en garde contre ma propension à m'auto-illusionner, oui.
Il y a quelque chose d'extraordinaire, Alexandre Jolien, dans votre livre « La sagesse espiègle ». Si je l'ai bien lu, vous allez me dire, c'est qu'il se produit un renversement. Au fond, il y a ces deux récits parallèles, le récit de cette addiction au corps d'autrui à travers des dispositifs vidéo, des sites internet, et puis les étapes de la libération par la philosophie. Et puis à la fin, j'ai l'impression que ce corps qui vous fascine, cette addiction, cette aliénation que vous ressentez dans le désir de ce corps, non seulement vous arrivez à vous en libérer, mais vous en libérez même le jeune homme de l'autre côté de l'écran. C'est-à-dire, grâce à vous, il se libère de sa propre aliénation.
C'est pour ça, moi, j'ai trouvé magnifique que même l'aliénation, la dépendance, l'addiction peut devenir le lieu d'une libération et d'un détachement que j'ai pas trouvé ailleurs. Et ça m'a fasciné.
Mais est-ce que je me trompe en disant que c'est vous, Alexandre Jolien, qui avez, en parlant avec ce jeune homme, qui lui avait permis de s'affranchir justement de cette aliénation?
Ou plutôt, c'est libérer les deux du passe dans l'addiction. On rejoint la dialectique du maître de l'esclave de chez Hegel, c'est-à-dire qui est l'esclave, qui est le maître. Et pour oser un amour dépouillé de tous ses scories, à nouveau, l'autre nous libère.
Dans l'expérience de l'addiction, qu'est-ce que c'est d'abord l'expérience de l'addiction pour vous, Alexandre Jolien? Donc c'est à telle heure, je crois que c'est 17h, vous dites, vous aviez irrésistiblement l'envie, le besoin de refaire ce geste, même si il vous paraît négatif, mais il y a une sorte de besoin absolu, plus fort que vous, qui s'empare de vous.
L'addiction pour moi, c'est quand le centre de la vie, justement, il est totalement dépendant de quelque chose et il oblitère tout, il concentre finalement tout le centre de l'univers et que rien n'existe hors ce geste ou cette personne ou cette substance, oui.
Est-ce que vous trouvez...
C'est une réduction de la vie, en tout cas dans mon cas, qui est totale.
Et qu'on ressent quand on y est, mais à laquelle on ne peut pas échapper. C'est comme si elle nous dépossédait aussi de nous-mêmes.
C'est plus fort que soi, et ça nous entraîne, ça nous traîne, oui.
Est-ce que vous pensez, Alexandre Julien, que cette expérience que vous avez vécue, je pense que vous racontez une expérience authentique que vous avez traversée, est-ce que vous pensez qu'elle est aussi au cœur de notre expérience sociale aujourd'hui, qu'elle est un des risques de notre vie sociale? C'est-à-dire, au fond, d'enfermer chacun dans un dispositif addictif, et en le coupant des autres, en le coupant des vraies rencontres.
Oui, je suis très frappé par les réseaux sociaux et l'importance que ça prend. Et de nouveau, j'ai voulu faire part d'une addiction pour interroger chacune et chacun sur la liberté. Qu'est-ce qui est trop libre aujourd'hui et qu'est-ce que lutter contre l'aliénation? Alors, il y a des aliénations qui sautent aux yeux, il y en a d'autres qui sont très subtiles et très dures à détecter.
Il y a autre chose qui m'a frappé, Alexandre Jolien, dans le livre, c'est que vous commencez par une scène très forte où quelqu'un, une femme dans une gare, je crois, s'adresse à vous. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle vous a reconnu? Vous êtes très connu, Alexandre Jolien. Est-ce qu'elle s'est tournée vers vous? Elle vous dit qu'elle a besoin de votre aide. Et vous dites, quand même, je suis pas médecin, regardez-moi, je vais pas si bien que ça. Et puis finalement, vous le prenez au sérieux et vous dites que vous allez devenir un polyclinicien, que vous allez ouvrir une polyclinique philosophique. Oui. On a besoin aujourd'hui d'une philosophie clinique.
Sans tomber dans...
Moi, je le crois comme vous, hein, Alexandre Jolien.
Sans tomber dans une sorte de développement personnel qui aurait réponse à tout et qui réglerait le tragique. Moi, je pense qu'on a besoin surtout d'être épaulé, d'être écouté pour s'en sortir, pour danser dans la joie, oui.
Qu'est-ce qu'elle, à votre avis, qu'est-ce que cette dame vous demandait exactement?
Ben peut-être un moyen d'aller mieux et ce désir. Peut-être qu'on a beaucoup en nous et peut-être... En tout cas, moi, j'ai eu la tentation de le combler à bas prix.
Vous-même, vous voulez dire
C'est-à-dire dans l'addiction, c'est-à-dire en déléguant à l'autre le soin de me sauver, alors que, justement, l'itinéraire passait avant tout par une réconciliation, oui.
Est-ce que vous croyez... que cette dame s'est adressée à Alexandre Jolien, dont elle sait que, malgré ce handicap dont vous parlez si fortement, c'est quelqu'un, j'allais dire vous, qui avait accédé à une sagesse espiègle, comme vous le dites. Donc elle se dit, si lui peut le faire, chacun devrait pouvoir le faire. Nous qui croyons n'avoir pas d'obstacle à franchir, lui, il a franchi des obstacles majeurs.
D'où
vous croyez que c'est ça, une sorte de... Mais je crois que vous résistez d'ailleurs à cette héroïsation de votre parcours.
D'où la nécessité pour moi d'avoir tout raconté, ce parcours addictif, cette dépendance, pour de nouveau dégommer toute instrumentalisation et dire attention, pourquoi installer une personne handicapée forcément du côté de l'héroïsme, quand elle est une personne à part entière, et j'allais dire comme une autre? Pourquoi ce besoin d'exemplarité qui se tapit derrière cette image?
Et donc votre geste dans ce livre, Alexandre Jolien, c'est de dire, voilà, j'ai ce handicap, mais en fait, j'ai aussi d'autres problèmes, finalement. Et c'est comme si la réponse à une idéalisation possible, c'est de repasser, de recreuser encore la fragilité, de trouver une autre faiblesse. Cette fois-ci que chacun d'entre nous a, en fait, mais je dirais même pas peut avoir, fragilité du désir, fragilité de la sexualité, fragilité du rapport à l'autre.
Et là, on revient à la vie quand on essaye de l'enfermer derrière des étiquettes, oui.
Et au fond, c'est quand même toujours la même ressource que vous retrouvez pour nous délivrer alors dans cette épreuve de la, la sexualité dépendante, finalement, c'est, est-ce que c'est les mêmes ressources que pour surmonter le côté social du handicap, au fond? Est-ce que c'est la même force vitale?
Alors, ce qui m'a aidé de sortir de cette dépendance, je ne sais pas si elle est sexuelle. Elle
était plus... Vous parlez quand même de la sexualité, vous dites d'ailleurs très fortement, et moi je pense que vous avez raison, qu'il faut parler de la sexualité.
Oui, mais en l'occurrence, aimer le corps d'un autre dans l'espoir d'être à sa place et de vivre loin d'un corps handicapé, il y a beaucoup d'éléments qui rentraient là-dedans, mais ce qui m'a libéré de la dépendance, c'est précisément sortir de la clandestinité, s'ouvrir à l'autre, oser une transparence, revisiter le lien et avancer main dans la main avec le réel.
Et donc ça, vous l'avez fait dans votre vie, Alexandre Jolien. Au moment même où vous viviez cette expérience, finalement, ça vous a, vous vous êtes dit, pour me délivrer, il faut que, je vais pas dire j'assume, mais il faut aussi que j'ai cette expérience-là au grand jour, que je vive mon rapport au corps et à autrui.
Et d'abord, sortir du mensonge qu'on peut se faire à soi-même, ne plus se mentir, ne plus se réfugier derrière des illusions pour regarder le réel et la vie en face.
Et donc la question est toujours sociale aussi pour vous. Au fond, quand je vous écoute, Alexandre Jolien, le vital et le social sont intriqués dans la vie humaine. Il n'y a pas que le corps, justement. Et devant la sexualité, le handicap, on pourrait réduire au corps, mais il y a toujours la relation à autrui, il y a toujours le social qui sont dans cette vie. Et pour lutter contre des pièges sociaux, aussi bien le regard sur le corps handicapé que les dispositifs d'addiction, il faut affirmer au grand jour social une autre façon de vivre ce corps, cette sexualité. Le social est fondamental.
Je dirais pas, il faut, pour moi, ça a été un élément d'apaisement certain. Pour moi, ça a été une source d'apaisement considérable.
Pourquoi vous n'oseriez pas dire il faut? Vous, quand même, vous.
Ben, j'ai pas la prétention d'être quelqu'un qui érige des normes, qui, de nouveau, je suis un simple témoin d'une expérience qui n'a pas vocation à être généralisée, oui.
Vous êtes peut-être pas, on n'a peut-être pas envie effectivement de théorèmes, quoique des grands auteurs de livres d'éthique aient fait des théorèmes, mais quand même, vous vous dites que vous êtes un peu médecin, Alexandre Jolien. Un médecin, il dit quand même il faut de temps en temps. Il dit, mais pas de façon extérieure. Il le dit dans tel ou tel cas. Il le dit avec l'idée qu'il faut éviter le mal.
Dans le livre, je suis
plutôt... Les choses qui nous font du bien.
Dans le livre, je suis plutôt un écolier, voire un patient.
D'accord.
Qui va voir du côté des grands philosophes pour essayer de glaner quelques outils. Mais j'ai pas la prétention d'en livrer moi-même.
Donc l'image de la clinique du philosophe médecin, c'est juste une image un peu ironique.
Ah bon? Polyclinique, ça veut dire qu'on est tous ensemble dans un rapport et dans une marche vers la grande santé. Pour moi, la polyclinique, c'était une affaire de vie ou de mort. C'est pas un détail littéraire, c'était une façon d'appréhender le regard de l'autre et d'en faire le lieu d'une liberté. Voilà.
Ah oui, donc l'image de la clinique, ça n'est pas vous qui seriez médecin et qui prescririez un remède, c'est plutôt un espace de solidarité, de partage de la condition.
Et on revient à la vie en commun qui peut nous blesser, mais qui nous épaule et nous soutient.
Qui peut le faire à certaines conditions, Alexandre. Il faut quand même. Alors je dis il faut, peut-être je dis beaucoup il faut, comment est-ce que vous diriez à ce moment-là, quel conseil vous auriez envie de donner d'ordre aussi social et politique dans une société quand même qui ne va pas tellement dans le sens que vous espérez en ce moment?
Moi je suis frappé par l'individualisme qui se cache. Même derrière l'apparence de la solidarité, parce que des fois la solidarité, c'est l'idée qu'on qu'on cherche un bonheur pépère pour soi et tant qu'à faire pour l'autre. Pour moi, je crois qu'il faut réhabiliter le « nous ». Nous sommes des êtres vivants et nous avons à nous épauler. Faute de sombrer dans un gouffre.
Et enfin, il me semble qu'il y a un trait très important, j'en ai peu parlé, mais quand vous remplacez le gai savoir par la sagesse espiègle, on a l'impression que l'espièglerie, c'est un peu moins profond que la joie ou que la gaieté, mais en même temps, peut-être ça allait encore plus. On a l'impression que vous aimez bien rire, d'un rire un peu malicieux aussi, d'un rire un peu comme ça, c'est-à-dire au fond, au moment où on s'y attend le moins, il y a quelque chose une complicité entre les corps, entre les humains, qui fait que peut surgir un peu de malice, un petit sourire.
L'espièglerie, c'est déjà ne pas se prendre au sérieux et ne pas se réfugier dans des postures et ne pas faire violence contre les réels. Et c'est, comme vous dites, un brin de recul envers ce qui est, oui.
Mais c'est relationnel aussi, l'espièglerie. Moi, j'entends quelque chose de relationnel, c'est-à-dire un être joyeux, on peut imaginer que c'est tout seul. Un enfant espiègle, c'est quand même pour tirer les habits des adultes, pour leur faire des petits croche-pieds, pour les embêter. C'est relationnel, c'est-à-dire c'est pour montrer aux autres que on peut quand même prendre la vie justement légèrement, j'allais dire du bon pied. C'est pour les autres aussi, l'espièglerie.
De nouveau le social et de nouveau qu'est-ce qui est social. Et même quand on est tout seul ou dans son intimité, le regard de l'autre reste présent.
Donc c'est bien ça, l'espièglerie, c'est quand même un petit sourire adressé à ce regard parfois effrayant.
Et aussi au regard que l'on porte sur soi, justement peut-être pour le mettre à distance aussi.
Même devant votre miroir, vous êtes espiègle, vous faites des petits pieds de nez à vous-même, Alexandre Jolien, le matin, le midi,
mais
ou le soir.
Mais je crois qu'il y a toujours tentation de se prendre au sérieux. Et de nouveau, l'espièglerie n'est pas une posture.
Non, j'ai bien compris.
C'est une présence au réel, oui.
Merci beaucoup, Alexandre Jolien, pour cet magnifique exercice d'espièglerie partagé.
Merci à vous.
Matière à penser, quelle nouvelle du vivant. Ce soir, notre deuxième rencontre avec et grâce à Alexandre Jolien, avec aussi Pierrick Charles, Nino Lima, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms, qui vous donne rendez-vous demain avec Nicole Ledouarin.
J'espère que tu aimes. j'inscrirai moi-même. Pauvre con.